celui qui parle sans l'écoute d'une oreille attentive est comme muet. Par conséquent, fidèle lecteur, ce dernier livre du cycle de la tour sombre t'est dédié. Que tes jours soient longs et tes nuits plaisantes. Aucun son, quand le bruit est partout, et j'entendis le carillon croître à mon oreille. Ces noms à mon oreille tendue, ceux d'aventuriers perdus. Mes pères, celui-ci était si fort, celui-là si hardi, et l'autre si chanceux, et tous, vieux amis enfuis, perdus, perdus. Un instant sonna le glas du malheur, des ans déchus. Tous, debout là, alignés le long des collines réunies, pour me voir avant le grand départ, cadre vivant et plein d'espoir d'un ultime tableau. Sur une feuille en flamme dans le soir, je les vis, tous je les reconnus, et c'est alors qu'en un geste infini, intrépide, je portais à mes lèvres mon corps béni et sonnais. Le chevalier Roland s'en vint à la tour noire. Robert Browning. Le chevalier Roland s'en vint à la tour noire. Je suis né, un six coups à la main, et c'est derrière mon arme levée que je mènerai mon dernier assaut. Bat Company. Que suis-je devenu? Mon doux ami, tous ceux que je connus finissent par disparaître. Tu pourrais tout posséder de mon empire de poussière. Je te laisserai sombrer. Je te ferai souffrir. Trent Reznor. 1999. 1999. Reproduction. Révélation. Rédemption. Retour éternel. Première partie. Le petit roi rouge. Dan Tett. Chapitre 1. Callahan et les vampires. 1. Autrefois, le père Don Callahan avait été prêtre catholique dans une ville du nom de Salem Slot, une ville qui n'existait plus sur aucune carte. Il s'en moquait. Les concepts tels que le réel n'avaient plus d'importance pour lui. Cet ancien prêtre tenait à présent dans sa main un objet bien païen, une figurine d'ivoire en forme de tortue. Elle avait une entaille dans le bec et une éraflure en point d'interrogation sur le dos. Mais hormis ces petites imperfections, c'était un objet magnifique. Magnifique et puissant. Il en sentait la force dans sa main, comme des voltes qui lui auraient parcouru les doigts. « Comme elle est jolie !» dit-il dans un souffle au garçon qui se tenait à ses côtés. « C'est Mathurin la tortue. C'est elle, n'est-ce pas ?» Ce garçon, c'était Jake Chambers, et il avait fait une grande boucle avant de revenir quasiment à la case départ, ici, à Manhattan.
« Je ne sais pas, » répondit Jake. « Probablement. Elle l'appelait la Scolpata, et elle pourrait nous être utile, mais elle ne tuera pas les écumeurs qui nous attendent là-dedans. »
rappela-t-il avec un mouvement de tête en direction du cochon du sud. Jake se demanda au passage si ce « elle », bien pratique, désignait Susanna ou Mia. Autrefois, il aurait dit que ça n'avait pas d'importance, tant les deux femmes étaient intimement liées. À présent, néanmoins, il comprenait que cette distinction était capitale, ou qu'elle le serait bientôt.
« Il n'y a que nous qui puissions le faire, père. Vous vous en sentez capable ?»«
Sous-entendu.
De tenir le coup. De tuer. »«
Ah oui, » dit Callahan d'un ton calme. Il glissa la tortue d'ivoire, avec ses yeux pleins de sagesse et sa carapace éraflée, dans sa poche de chemise, où elle alla rejoindre les balles du revolver qu'il portait, puis tapota une dernière fois le tissu pour vérifier que cette astucieuse petite chose était bien en sécurité. « Je tirerai jusqu'à épuisement de mes munitions, ou jusqu'à la mort. Si j'arrive à court de munitions avant qu'il me tue, je les rouerai de coups avec la crosse. »
Il avait marqué une hésitation si brève que Jake ne la releva pas. Mais dans ce court intervalle, le blanc parla au père Callahan. C'était là une force qu'il connaissait de longue date, depuis son enfance même, en dépit des quelques années de mauvaise foi, des années où la compréhension qu'il avait de cette force élémentaire avait d'abord vacillé progressivement, pour finalement se perdre complètement. Mais cette époque était révolue. Le blanc était de nouveau sien, et il dit grand merci à Dieu.
Jake parlait en hochant la tête. Callahan entendit à peine ce qu'il disait. Et peu importait ce que disait le garçon. En revanche, ce que disait cette autre voix, la voix de quelque chose.
Gan. Quelque chose de trop grand, peut-être, pour être appelé Dieu. Voilà qui importait.
Le garçon doit continuer, lui dit la voix. Quoi qu'il se passe à l'intérieur, quoi qu'il advienne, le garçon doit continuer. Ton rôle dans cette histoire est presque achevé. Le sien, non.
Ils dépassèrent le panneau suspendu à son poteau chromé, fermé pour cause de réception privée. Avec Otey, le grand ami de Jake, qui trottinait entre eux, la tête haute et le museau décoré de son habituel sourire jusqu'aux dents. Arrivé en haut des marches, Jake se mit à fouiller dans le sac tissé que Susanna Millot avait rapporté de Calabrine Sturgis, et il empoigna deux des plats qu'il contenait, les Rizza. Il les cogna l'un contre l'autre, opina du chef en les entendant tinter faiblement, puis dit
« Voyons la vôtre ».
Callahan leva le regard que Jake avait rapporté de Cala New York et qui était de retour au bercail. « La vie est une roue et nous disons tous grand merci. » Pendant une seconde, le père tint l'arme à hauteur de sa joue droite, comme un duelliste son fleuret. Puis il toucha sa poche de chemise, bombée et alourdie par les balles, et par la tortue, la Scolpata. Jake hocha la tête d'un air satisfait.
« Une fois à l'intérieur, on reste ensemble, toujours groupés, avec Otey entre nous. À trois. » Et une fois parti, on ne s'arrête plus, jusqu'à la mort.
On ne s'arrête plus.
C'est ça. Vous êtes prêt?
Oui. L'amour de Dieu t'accompagne, mon garçon.
Vous aussi, père. Un, deux, trois.
Jake ouvrit la porte et ils pénétrèrent ensemble dans la semi-pénombre et l'odeur rance et doucereuse de porc grillé.
Deux.
Jake se précipita vers ce qu'il croyait dur comme fer devoir être sa mort, en se remémorant deux choses que lui avait dites Roland Deschaine, son vrai père.
« Il arrive que des batailles qui ne durent que 5 minutes donnent naissance à des légendes qui perdurent pendant un millénaire. Et tu n'as pas à mourir heureux lorsque ton jour viendra. » Mais tu dois mourir satisfait, car tu auras vécu ta vie du début jusqu'à la fin, et que tout sert le cas. »
Et c'est l'âme satisfaite que Jake parcourut du regard la devanture du cochon du Sud. 3. Et aussi avec les idées claires comme de l'eau de roche. Ses sens se trouvaient tellement aiguisés qu'il ne sentait pas seulement l'odeur de porc grillé, mais aussi le romarin dont on avait saupoudré la viande. Il entendait le rythme calme de sa respiration, mais aussi le doux murmure de la marée de son sang, montant vers le cerveau d'un côté de son cou et descendant vers le cœur de l'autre. Il se rappela aussi Roland, qui disait que même la plus brève des batailles, depuis la première balle tirée jusqu'au dernier corps à terre, paraissait extrêmement longue à ceux qui y prenaient part. Le temps devenait élastique. Il s'étirait au point de s'évanouir. Jake avait hoché la tête, comme s'il comprenait, alors que ce n'était pas le cas. Maintenant, il comprenait. Sa première pensée fut qu'ils étaient trop nombreux, beaucoup, beaucoup trop nombreux. Il en dénombra environ une centaine.
en majeure partie des créatures comme celles que le père Callahan avait qualifiées d'ignobles. Certaines étaient des femmes, mais Jake se dit que le principe devait être le même. Égrené au milieu d'eux, aussi peu charnu que les Folken ignobles, et pour certains, aussi maigre que des lames de sabre, avec un teint de cendre et une aura bleue tout autour d'eux, apparaissaient ceux qui devaient être des vampires. Otay se tenait au pied de Jake, son petit museau de renard arborant un air sévère, et il grondait en sourdine. Et cette odeur de viande en train de cuire, qui flottait dans l'air et leur parvenait par petites bouffées, ce n'était pas celle du porc. 4.
Il faut qu'il y ait 3 mètres entre nous, chaque fois qu'on pourra, père.
C'est ce que Jake lui avait dit, sur le trottoir. Et tandis qu'ils approchaient du pupitre du maître d'hôtel, Callahan se glissa à la droite de Jake, respectant la distance de sécurité. Jake lui avait aussi recommandé de hurler aussi fort qu'il le pouvait, et c'est ce que Callahan s'apprêtait à faire lorsque la voix du blanc résonna de nouveau à l'intérieur de lui. Rien qu'un mot, mais ce mot lui suffit. « Skolpata », dit la voix. Callahan tenait toujours le rugger à hauteur de sa joue droite. Il plongea la gauche dans sa poche de chemise. La conscience qu'il avait de la scène se déroulant sous ses yeux ne valait pas l'hypervigilance de son jeune compagnon, mais ça ne l'empêchait pas de percevoir beaucoup de choses. Les flambeaux électriques orange cramoisis accrochés au mur, les bougies sur chaque table dans leur petit verre d'un orange plus vif, genre Halloween, et les serviettes de table d'un blanc étincelant. À gauche de la salle à manger pendait une tapisserie représentant des chevaliers et leurs dames attablées autour d'un grand banquet. Cette scène dégageait une drôle d'impression. Callahan ne savait pas exactement d'où elle provenait, car les divers signaux et stimuli étaient trop subtils. L'impression de gens reprenant leurs esprits après un grand moment d'émotion, un petit incendie domestique ou, disons, un accident de voiture aperçu dans la rue.
Ou bien l'accouchement d'une de ces dames, se dit Callahan en refermant la main sur la tortue. Rien de tel pour faire une petite pause entre les amuse-gueules et l'entrée.
Voici venir les camets de Gilead, s'écria une voix surexcitée et anxieuse.
Pas une voix humaine, en déduisit Callahan, et il n'avait aucun doute là-dessus. Elle était trop bourdonnante pour être humaine. Callahan aperçut ce qui ressemblait à un monstre hybride entre homme et oiseau qui se tenait au bout de la salle. La créature portait un jean droit et une chemise blanche toute simple, mais la tête qui jaillissait du col était décorée de plumes peintes d'un jaune foncé et lustré. Ses yeux semblaient des gouttes de goudron liquide.
« Attrapez-les !» hurla cette chose ridicule et immonde en balayant d'un geste une serviette de table.
Dessous était cachée une arme, un pistolet sans doute, mais du genre qu'on voyait dans Star Trek. Comment on les appelait déjà? Des alères? Des lacères? Peu importait. Callahan disposait lui-même d'une arme bien plus redoutable, et il voulait s'assurer que tous la voyaient bien. D'un revers de main, il balaya les couverts et le photophore de la table la plus proche, puis arracha la nappe comme un magicien. Il voulait éviter à tout prix de se prendre les pieds dedans au moment crucial. Puis, avec une agilité dont il se serait cru incapable encore une semaine plus tôt, il sauta sur une chaise, et de là sur la table elle-même. Une fois sur la table, il brandit la Skolpata, dont le ventre doux reposait sur le bout de ses doigts, afin que toute l'assistance pût la voir à son aise.
« Je pourrais chantonner un petit quelque chose, » se dit-il. « Un truc du genre « Moonlight becomes you » ou « I left my heart in San Francisco ».
Et à cet instant précis, il se trouvait à l'intérieur du cochon du Sud depuis exactement 34 secondes. 5. Tous les profs de lycée s'étant déjà trouvés en face d'une classe de jeunes boutonneux vous le diront.
Même fraîchement douchés et pomponnés, les adolescents diffusent à 100 mètres à la ronde les effluves de ces hormones que leur corps se démène à produire. Tout groupe soumis à une situation de tension sécrète une odeur similaire, et Jake, avec ses sens affûtés à l'extrême, la sentait dans cette pièce. Lorsqu'ils passèrent devant le pupitre du maître d'hôtel, le centre de chantage, comme son père aimait à l'appeler, l'odeur imprégnant le cochon du sud n'était encore que légère. C'était l'odeur de la tension qui redescend après une bagarre. Mais lorsque la créature oiseau se mit à hurler du bout de la salle, Jake sentit plus distinctement les relents dégagés par les clients. Comme un arôme métallique, rappelant suffisamment celui du sang pour lui échauffer l'esprit et réveiller ses émotions. Oui, il vit Titi renverser la serviette posée en cône sur la table la plus proche. Oui, il vit l'arme cachée dessous. Oui, il comprit que Callahan, debout sur une table, était devenu une cible facile. Mais tout ça préoccupait beaucoup moins Jake que cette arme fédératrice qu'était la bouche de Titi. Jake repoussa son bras droit en arrière, dans l'intention d'envoyer le premier de ses 19 plats et de faire sauter cette tête répugnante quand Callahan brandit la tortue.
« Ça ne marchera pas, pas ici !» pensa le garçon.
Mais avant même que cette idée fût complètement claire dans son esprit, il constata que si, ça marchait. Il le sut à leur odeur. Toute trace d'agressivité en avait disparu. Et les rares qui avaient fait mine de se lever de leur chaise, les ignobles avec ce trou sanguinolent au milieu du front, et les vampires avec cette aura bleue qui paraissait s'intensifier, se rassirent d'un seul coup, comme s'ils avaient soudain perdu toute maîtrise de leurs muscles.
« Attrapez-les ! Ce sont eux, ceux que Seir a !»
Puis Titi se tut. Sa main gauche, si on pouvait appeler main cet horrible cerf, frôla la crosse de son arme high-tech puis retomba le long de son corps. L'éclat brillant de ses yeux sembla s'éteindre.
« Eux que Seir a... »
Nouvelle pause. Puis l'homme-oiseau dit
« Oh, Sai, qu'est-ce que cette ravissante chose que vous avez là ?»«
Tu sais très bien ce que c'est. » répondit Callahan.
Jake se déplaçait et Callahan était attentif à ce que le jeune garçon lui avait dit dehors.
« Faites en sorte qu'à chaque fois que je tourne la tête sur ma droite, je vois votre profil. »
Aussi recula-t-il de la table pour le suivre, tout en tenant toujours la tortue à bout de bras. Il pouvait presque goûter le silence qui baignait la salle. Pourtant, il y avait une autre salle. Des rires grossiers et des cris rauques de beuverie. Une fête, à en juger par le bruit, et tout près, sur la gauche, derrière la tenture des chevaliers et de leurs dames en train de festoyer.
« Il se passe quelque chose derrière, » se dit Callahan, « et sûrement pas un championnat international de poker. »
À ses côtés, il entendait la respiration rauque et précipitée d'Oté, qui arborait toujours son sempiternel sourire, parfait petit moteur. Et autre chose aussi. Un cognement discordant avec en arrière-plan un cliquetis sourd et rapide. Le mélange des deux fit grincer les dents de Callahan et un frisson glacé lui parcourut la peau. Quelque chose se cachait sous ses tables. Oté fut le premier à apercevoir les insectes et s'immobilisa comme un chien en arrêt, la patte avant levée et la truffe pointée droit devant lui. Pendant un moment, la seule partie mobile de son corps fut le triangle de velours noir et humide de son museau, se rétractant pour découvrir ses crocs aiguisés, puis se relâchant pour les dissimuler et se rétractant de nouveau. Les insectes s'approchèrent. Difficile de dire ce qu'ils étaient exactement, mais Mathurin, la tortue, que le père brandissait toujours sur sa paume, ne leur faisait à l'évidence aucun effet à eux. Un type gras en smoking à revers écossais prit la parole d'une voix faible, s'adressant à l'homme-oiseau sur un ton interrogatif.
« Il n'était pas censé venir jusqu'ici, Mayman, ni repartir. On nous a bien dit de... »
Othé plongea en avant, grognant violemment entre ses dents serrées.
C'était un son très inhabituel de sa part, qui évoqua à Callahan une bulle de bande dessinée suspendue au-dessus d'un petit personnage furieux.
« Ah !»«
Non !» s'écria Jake alarmé. « Non, Othé !»
Soudain, les cris et les rires de l'autre côté de la tapisserie se turent. Comme si les Falken dissimulés s'étaient brusquement rendus compte qu'il se passait quelque chose dans la salle de devant.
Othé ignora la mise en garde de Jake. Il croqua trois insectes d'affilée et le craquement de leur carapace résonna avec une clarté ignoble dans l'immobilité générale.
Othé ne fit pas mine de les manger et se contenta de repousser les cadavres de côté.
Des cadavres de la taille d'une souris, en les envoyant voler d'un coup de tête sec et en desserrant brièvement les mâchoires.
Et les autres se précipitèrent de nouveau à couvert, sous les tables.
« Il est fait pour ça !» pensa Callahan. « Peut-être qu'il y a bien, bien long, tous les bafouilleux étaient programmés pour ce genre de choses, comme on dresse certaines races de terriers à... »
Un cri rauque provenant de derrière la tenture vint interrompre ses considérations.
« Des humes !» s'écria une voix. « Des ca-humes !» répliqua une deuxième.
Callahan ressentit la pulsion étrange de se mettre à hurler « Gesundheit !» Mais avant qu'il ait pu ouvrir la bouche, la voix de Roland retentit soudain dans son esprit.
6.
Jake, va-t'en !
Perplexe, le garçon se tourna vers le père Callahan. Le garçon avançait les bras croisés, prêt à lancer les rizzas sur le premier ignoble qui ferait mine de bouger.
Othé était revenu se poster à ses pieds, mais il balançait la tête de droite à gauche, les yeux brillants à la perspective de voir surgir de nouvelles proies.
« On s'en va ensemble, » répondit Jake. « Ils sont azimutés, père, et on est tout prêt. » « C'est par ici qu'ils l'ont emmené, dans cette pièce. Puis ils ont traversé les cuisines. »
Callahan ne prêta pas attention aux paroles du garçon. Brandissant toujours la tortue au-dessus de sa tête, comme il aurait brandi une lanterne dans une grotte profonde, il s'était tourné vers la tapisserie. Le silence qui était tombé était bien plus effrayant que les cris et les rires de gorge fébrile. Ce silence avait tout d'une arme pointée sur eux, et le garçon s'était immobilisé.
« Partant que tu le peux encore !»
répéta Callahan en luttant pour garder son calme.
« Rattrape-la si tu le peux. C'est ton dîne qui te l'ordonne. C'est aussi la volonté du blanc. »«
Mais vous ne pouvez pas... »«
Vas-y, Jake !»
En entendant ce cri, bien que sous le charme de la scolpata, les ignobles à l'intérieur du cochon du Sud se mirent à murmurer avec une sorte de malaise. Et ils avaient bien de quoi, car ce n'était pas la voix de Callahan qui s'était échappée de la bouche de Callahan.
« C'est une chance unique, et tu te dois de la saisir. Retrouve-la. En tant que Dean, je te l'ordonne. »
Les yeux de Jake s'écarquillèrent lorsqu'il reconnut la voix de Roland dans la gorge du prêtre. Sa mâchoire s'affaissa. Il regarda autour de lui, médusé. Dans la seconde qui précéda l'ouverture subite de la tapisserie, comme un tissu qui se déchire, Callahan perçut la sombre farce, ce détail invisible à l'œil insouciant. Le pilon, qui constituait l'entrée de ce banquet, était de forme humaine. Ces chevaliers et leurs dames dégustaient de la chair humaine en trinquant avec du sang. Sur cette tenture se déroulait une scène de communion cannibale. Et c'est alors que les ancêtres, absorbés par leur propre souper, déchirèrent cette tapisserie obscène et firent irruption dans la pièce, en poussant des hurlements et en découvrant leurs crocs qui saillaient et déformaient leurs bouches ouvertes à jamais. Leurs yeux tellement noirs paraissaient aveugles, et la peau de leurs joues et de leur front, et même du dos de leurs mains, se hérissait de dents pareilles à des tumeurs. Comme les vampires de la salle à manger, ils étaient pourvus d'une aura, non pas bleue,
mais d'un violet empoisonné, si foncé qu'il en était presque noir. Une sorte d'humeur suintée du coin de leurs yeux et de la commissure de leurs lèvres. Tous baragouinés, certains riaient même. Pourtant, les sons ne semblaient pas émaner d'eux. On aurait dit qu'ils les arrachaient momentanément à l'air ambiant, comme un matériau qu'on aurait pu déchirer vivant. Et Callahan les reconnut. Bien sûr qu'il les reconnut. N'était-ce pas par des créatures de leur espèce qu'il avait été envoyé ici? Et voilà qu'il se retrouvait en présence des vrais vampires, des types 1, cachés tel un secret, et qu'on lâchait à présent sur les intrus. La tortue qu'il brandissait ne les incommoda pas le moins du monde. Callahan vit Jack qui les regardait, les yeux écarquillés et brillants de terreur, le teint blême, ayant perdu toute volonté en présence de ces monstres de la nature. Sans avoir aucune idée de ce qui sortirait de sa bouche, Callahan se mit à hurler. « Ils vont commencer par tuer Oté. Ils vont le tuer sous tes yeux et te faire boire son sang !» Oté aboya en entendant prononcer son nom. Les yeux de Jake parurent soudain s'éclaircir, mais Callahan n'eut pas le temps de contempler plus longtemps le garçon. « La tortue ne les arrêtera pas, mais au moins elle retient les autres. » Les balles non plus ne les arrêteront pas, mais... » Avec une forte impression de déjà-vu, et c'était compréhensible, car il avait déjà vécu tout ça chez ce jeune garçon du nom de Mark Petrie, Callahan plongea la main dans l'échancrure de sa chemise et saisit la croix qu'il portait autour du cou. Elle émit un cliquetis en touchant la crosse du regard. La croix était illuminée d'un éclat blanc bleuté. Les deux monstruosités qui s'apprêtaient à fondre sur lui reculèrent avec un hurlement de douleur. Callahan vit la surface de leur peau se mettre à grésiller, puis se liquéfier. Cette vision le remplit d'une joie sauvage.
« Ne m'approchez pas !» s'écria-t-il. « C'est le pouvoir de Dieu qui vous l'ordonne, le pouvoir du Christ. C'est le cas de l'entre-deux-mondes qui vous l'ordonne. C'est le pouvoir du blanc qui vous l'ordonne. »
L'un d'eux n'enfonça pas moins sur lui, sorte de squelette déformé dans un smoking tout vermoulu de moisissure, qui portait autour du cou comme une très vieille médaille. Une croix de Malte, peut-être. Il abattit une main aux ongles longs et recourbés sur le crucifix que le père brandissait devant lui. Callahan le déroba à ses griffes au dernier moment, et les doigts du vampire le manquèrent d'un centimètre. Sans réfléchir, Callahan plongea en avant et alla planter sa croix dans la peau jaune et parcheminée du front de la créature. Le crucifix en or s'enfonça dans la chair comme une broche chauffée à blanc dans du beurre. La chose, dans son costume chic, lâcha un hurlement de douleur liquide et bascula en arrière. Callahan extirpa la croix de sa chair. L'espace d'une seconde, avant que l'aïeul monstrueux ne porte les griffes à son front, Callahan eut le temps d'apercevoir le trou qu'avait creusé le métal. Puis une matière jaunâtre et épaisse se mit à suinter entre les doigts de la chose. Ses genoux cédèrent et elle s'écroula au sol entre deux tables. Ses congénères se reculèrent avec dégoût, en hurlant d'indignation. Derrière ses mains croisées, le visage de la créature commençait déjà à se distordre et à s'affaisser vers l'intérieur. Son aura fut soufflée comme une chandelle, et il ne resta plus tout à coup qu'une flaque de chair jaune et liquide, dégoulinant telle une vomissure des manches de sa veste et du bas de son pantalon. Callahan s'avança vers les autres d'un pas rapide. Sa peur avait disparu. L'ombre de la honte qui planait sur lui depuis que Barlow s'était emparé de sa croix et l'avait brisée. Cette ombre avait disparu elle aussi.
« Enfin libre !» pensa-t-il. « Enfin libre par Dieu Tout-Puissant, je suis enfin libre !» Puis, ce doit être la rédemption. Et ça fait du bien, n'est-ce pas?
Oui, un bien fou.
« Repousse-la !» s'écria l'un d'eux, les mains levées pour se protéger le visage. « Cette saleté de babiole du dieu berger, repousse-la si tu oses !»«
Saleté de babiole du dieu berger, pour sûr !» « Pourquoi vous reculez si ça n'est que ça ?» Contre Barlow, il n'avait pas osé relever le défi.
et c'est ce qui avait causé sa perte. Au cochon du sud, Callahan brandit la croix en face de la chose qui avait eu l'audace de lever la voix.
« Je n'ai pas besoin de mettre ma foi à l'épreuve d'une créature telle que toi, Sai !»
lança-t-il d'une voix claire qui résonna haut et fort dans la pièce. Il avait contraint ces antiquités à reculer quasiment jusqu'à l'arcade par laquelle elles étaient entrées. De grosses tumeurs sombres étaient apparues sur le visage et les mains de celles situées en première ligne, entamant leur peau de papier comme de l'acide.
« Et de toute manière, jamais je n'abandonnerai une si vieille amie. Mais la repousser, si fait si tu veux. »
Et il fit glisser la croix dans l'encolure de sa chemise. Plusieurs vampires se jetèrent en avant sur le champ, leurs bouches jalonnées de crocs s'entr'ouvrant en ce qui devait ressembler à un sourire de triomphe. Callahan tendit les mains vers eux. Ses doigts et le canon du Ruger scintillaient comme s'il les avait trempés dans un feu glacé. Les yeux de la tortue s'étaient eux aussi remplis de lumière. Sa carapace miroitait.
« Ne m'approchez pas !» hurla Callahan. « C'est le pouvoir de Dieu et le blanc qui vous l'ordonne !»
7. Quand ce terrible chaman se tourna vers les aïeux, Mehman des Taïn sentit l'horrible et délicieux glame de la tortue faiblir quelque peu. Il constata que le garçon avait disparu, ce qui le remplit de désarroi, mais du moins s'était-il enfoncé plus avant au lieu de s'enfuir. Aussi tout allait peut-être pour le mieux. Mais si le garçon trouvait la porte vers Fédic et l'empruntait, alors Mehman se retrouverait sans doute en très délicate posture. Car Seir rendrait compte de la situation à Walter Odim, et Walter la reporterait au roi cramoisi en personne. Peu importait, chaque chose en son temps. D'abord, régler son compte au chaman, lâcher les aïeux contre lui. Puis partir à la poursuite du garçon, peut-être lui crier que son ami avait besoin de lui, finalement ça pourrait marcher. Mais Man, l'homme canari, comme l'aurait appelé Mia ou Titi pour Jake, rampa jusqu'à Andrew, le gros homme en smoking à revers écossais, et l'empoigna d'une main, de l'autre saisissant sa gueuse, plus grosse encore. Il leur désigna Callahan qui leur tournait le dos. Tirana secoua la tête avec véhémence. Mehman ouvrit le bec et lui adressa un sifflement violent. Elle eut un mouvement de recul. Deta Walker avait déjà planté ses doigts dans le masque que portait Tirana et ses joues et sa mâchoire pendaient en lambeaux. Au milieu de son front, une plaie rouge s'ouvrait et se refermait comme les branchies d'un poisson à l'agonie. Mehman se tourna vers Andrew, le relâcha le temps de pointer le doigt en direction du chaman, puis fit glisser les serres qui lui servaient de doigts devant les plumes de sa gorge en un geste funeste et explicite. Andrew acquiesça et repoussa vivement les mains potelées de sa femme qui tentait de le retenir. L'ignoble en smoking criard rassembla visiblement son courage. Puis il s'élança avec un cri étranglé, saisissant Callahan à la gorge, non pas avec ses mains, mais en le garrottant de ses avant-bras grassouillets. Au même instant, sa gueuse plongea et fit voler la tortue des mains du père, le tout en hurlant. La scolpata roula sur le tapis rouge sombre, rebondit sous l'une des tables et là, comme certains bateaux en papier que quelques-uns parmi vous se rappelleront peut-être, sortit de cette histoire pour toujours. Les aïeux demeuraient en arrière, tout comme les types trois qui dînaient dans la grande salle, mais les ignobles flairèrent un moment de faiblesse et tentèrent une approche, d'abord furtivement, puis gagnant progressivement en confiance. Ils encerclèrent Callahan, marquèrent un temps d'arrêt, puis fondirent sur lui en nombre.
« Laissez-moi, au nom de Dieu !»
s'écria Callahan, ce qui n'eut bien sûr aucun effet. À la différence des vampires, les choses à cercle rouge sur le front ne réagissaient pas au nom du Dieu de Callahan. Tout ce qui lui restait à faire, c'est espérer que Jake ne s'arrêterait pas, et surtout qu'il ne ferait pas demi-tour. Mais Othé et lui fileraient comme le vent, ils retrouveraient Susanna, ils la sauveraient s'ils le pouvaient, ou mourraient avec elle dans le cas contraire. Et ils tueraient son bébé s'il leur en était donné l'occasion. Pour l'amour de Dieu, ils s'étaient trompés à ce sujet. Ils auraient dû réduire à néant ce bébé dès la cala tant qu'ils le pouvaient. Il sentit quelque chose plonger très profond dans son cou. Les vampires allaient venir à présent, avec ou sans croix. Ils lui tomberaient dessus comme des requins qu'ils étaient, dès qu'ils auraient reniflé les premiers effluves de son sang gorgé de vie.
« Mon Dieu, aidez-moi, prêtez-moi la force !» pensa Callahan.
Et il sentit la force déferler en lui. Il roula sur la gauche au moment où des griffes déchiquetaient sa chemise, la réduisant en lambeaux. Pendant un instant, sa main droite se retrouva libre et elle tenait toujours le rigueur. Il le pointa en direction du visage suant, congestionné et affairé de cette espèce de gros tas dénommé Andrew, et appuya le barillet du pistolet, acheté à des fins domestiques bien longtemps auparavant par le père de Jake, huile de la télé, un tantinet paranoïaque, contre la blessure rouge et tendre au milieu du front de la créature.
« Non, tu n'oseras pas !»
s'exclama Tirana en tendant le bras vers l'arme, faisant finalement éclater le devant de sa robe, libérant ainsi son énorme poitrine, qui était recouverte d'une couche de fourrure rêche. Callahan appuya sur la détente. La détonation fut assourdissante et son écho emplit la salle à manger. La tête d'Andrew explosa comme une gourde gonflée de sang, aspergeant les créatures qui s'étaient agglutinées derrière lui. Callahan entendit des cris d'horreur et de surprise. Il eut le temps de se dire
« Ça n'était pas censé se passer comme ça, pas vrai ?» Puis, « Je suis admis au club, c'est bon? Je suis enfin un pistolero ?»«
Peut-être pas. » Et en face de lui se tenait l'homme-oiseau, debout entre deux tables, son bec s'entr'ouvrant et se refermant, gonflant le cou d'excitation. Le sourire aux lèvres, prenant appui sur un coude tandis que le sang s'échappant de sa gorge déchirée se répandait sur le tapis. Callahan visa avec le regard de Jake.
« Nyan !»
s'écria Mayman, en levant ses mains déformées devant son visage, en un geste dérisoire de protection.
« Nyan, vous ne pouvez pas !»«
La preuve que je peux !»
pensa Callahan avec une jubilation de gosse, avant de tirer à nouveau. Mayman fut déporté de deux pas en arrière, puis d'un troisième chancelant. Il se cogna à une table et s'écroula dessus. Trois plumes jaunes restèrent suspendues dans l'air, puis descendirent doucement en zigzag paresseux. Callahan entendit des mugissements féroces. Pas des mugissements de peur ou de colère, non. Seulement les cris de la faim. L'arôme du sang avait fini par s'insinuer dans les narines blasées des aïeux, et plus rien ne les arrêterait à présent. Aussi, s'il ne voulait pas les rejoindre, Père Callahan, jadis le père Callahan de Salem Slot, retourna le canon du regard contre lui-même. Il ne perdit pas de temps à contempler les ténèbres de l'éternité dans la gueule de l'arme et l'appuya directement sous son menton.
« Heil Roland !» dit-il en sachant « La vague, ils sont emportés par la vague » qu'il était entendu. « Heil Pistolero !»
Son doigt se tendit sur la détente à l'instant où ces monstres des ténèbres fondaient sur lui. Il se retrouva enseveli sous la puanteur de leur haleine glaciale et exsangue. Mais il ne se laissa pas décourager. Jamais il ne s'était senti si fort. De toutes les années de sa vie écoulées, les plus heureuses avaient été celles du vagabond, non plus prêtre, mais Callahan de la route. Et il sentait qu'il serait bientôt libre de reprendre cette vie-là, et d'errer comme bon lui semblerait son devoir accompli, ce qui était une bonne chose.
« Puisses-tu trouver ta tour, Roland, et en forcer l'accès pour monter jusqu'au sommet ?»
Les dents de ses vieux ennemis, anciens frères et sœurs de cette chose qui se faisait appeler Kurt Barlow, se plantèrent dans sa chair comme des dards. Callahan ne les sentait pas, et c'est en souriant qu'il appuya sur la détente, leur échappant pour toujours.